L'exploitation en France reprend enfin quelques couleurs, bien aidée par les nouveautés de la semaine. Parmi elles, Cocorico de Julien Hervé, sorti par SND, est le grand artisan de cette embellie que nous espérons maintenant durable. Ça tombe bien, et Joël Pourgaton, directeur des ventes de SND, est au micro d'Opening Weekend aujourd'hui pour revenir sur cet excellent démarrage. Opening Weekend numéro 62, c'est parti.
Débriefing, c'est un mot valise, il faut le rappeler.
DiCaprio peut me dire merci.
C'est hyper beau le cinéma.
On a un fichier complet partout.
C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas.
Finalement, ce qui est important, ce sont les gens.
Des gens âgés qui mettent des lunettes.
Ils arrivaient à faire une estimation
comme des observateurs du cinéma.
Bonjour à tous, bonsoir si vous écoutez le soir et bienvenue pour ce numéro 62 d'Opening Weekend. J'ai le plaisir, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir quelqu'un qui fait l'actualité. Je parle évidemment du directeur des ventes de SND, Joël Pourgaton. Bonjour Joël.
Bonjour, bonsoir.
Et à mes côtés, comme d'habitude, une équipe de chic et de choc, à commencer par Charlotte Escolier. Bonjour Charlotte.
Salut Tom, bonjour à tous.
Non loin d'elle, Arthur Pavlovski. Bonjour Arthur.
Salut Tom, bonjour à tous.
Et enfin celui qui va peut-être pallier l'absence de Julien Bernard ce soir, en tout cas il va essayer de faire de son mieux pour faire aussi bien que Julien. Je parle évidemment de Jérémy Trecaisser. Bonjour Jérémy.
Bonjour Tom, bonjour à toutes et à tous. Merci pour la petite pression en début d'épisode.
Comme ça, tu es tout de suite dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet, on va évidemment vite y rentrer. On va parler longuement de Cocorico. Je fais un petit aparté d'emblée pour vous rappeler que l'appli Débriefing a été lancée il y a maintenant 2 semaines et qu'elle est téléchargeable sur l'Apple Store, sur Android, je crois aussi, ou c'est pas encore le cas?
Moi, je dirais oui.
Ouais, donc l'Apple Store et Android, voilà l'application que nous avons mis des mois et des mois à mettre en route. Et ça y est, elle est là pour vous regrouper tout ce que nous faisons, y compris les différents podcasts satellites, dont ceux de Charlotte Escolier. Hein. C'était mon film, le podcast que tu animes. Aujourd'hui, je le disais, on revient sur l'actualité ciné de la semaine et on va tout de suite démarrer en parlant de Cocorico. Voilà, le film. Et le succès de ce week-end, le film qui fait l'actualité. Joël Pourgaton, on va revenir là-dessus. J'ai quelques questions à vous poser sur le film, sur comment ça s'est préparé et sur les premières réactions. D'abord, je me permets de vous présenter peut-être pour celles et ceux qui ne vous connaîtriez pas. Donc vous êtes le directeur des ventes de SND, directeur des ventes qu'on pourrait dire c'est la personne qui gère toute l'équipe de programmation de SND.
Par intérim,
voilà, vous remplacez Aurélie Pierre, c'est ça?
C'est ça, qui revient bientôt dans un mois.
Qui revient bientôt. Vous êtes toutefois un visage connu de la profession, puisque vous êtes passé notamment par Gaumont Buena Vista, et vous avez été également directeur des ventes chez Walt Disney Company pendant 8 ans, c'est ça?
À peu près.
Et évidemment à la Fox jusqu'à il y a 3-4 ans.
Jusqu'à la fin.
Jusqu'au
fermeture des Fox 2020.
Voilà, pendant 11 ans. Et donc, vous venez aujourd'hui avec votre casquette de directeur des ventes de SND. Cocorico, c'était un des premiers événements de l'année pour SND. Le film démarre avec 488 000 entrées au week-end. Est-ce que vous attendiez à un tel démarrage?
En tout cas, tout avait été fait pour arriver à ce résultat-là. On s'est daté exprès juste avant les premiers jours de vacances scolaires de la première zone qui démarrait ce week-end. Et voilà, il y a eu toute une campagne promo. Il n'y a pas une tournée, mais il y a eu vraiment Didier Bourdon et Christian Clavier qui, réunis donc pour la première fois au cinéma, ne pouvaient faire que titre. Et les résultats, on est tous satisfaits, non pas uniquement pour SND, mais pour l'exploitation.
Et ce duo, peut-être, Christian Clavier, Didier Bourdon, est-ce que ça fait partie des ingrédients qui ont mené à ce beau démarrage? Est-ce que vous, avec votre analyse du marché, vous arrivez à comprendre pourquoi le film démarre aussi haut, dans un marché qui est globalement plutôt faible hein, jusqu'à présent?
Il est évident que le pari qu'a fait Julien Hervé, le réalisateur de ce film, et c'est son premier film seul, puisqu'il avait réalisé auparavant Le Doudou, le pari, ça a été de réunir ces deux monstres sacrés du box-office pour la première fois au cinéma. Et il était évident que pour nous, avec l'histoire, avec cette histoire de test ADN qui pouvait toucher tout le monde, ça ne pouvait que fonctionner. Après, il y a toujours des ingrédients, des choses à côté qui se passent. Mais en l'occurrence, pour Cocorico, ça a bien fonctionné. On n'a pas fait d'avant-première. On était un petit peu dans l'incertitude, en tout cas jusqu'au jour J. Et puis très vite, on a senti que ça démarrait.
Jérémy.
Mais alors, question, moi, qui me vient tout de suite à l'esprit, pourquoi ne pas faire de tournée ou d'avant-première quand on entend les exploitants dire souvent qu'ils ont besoin d'animer leur salle, de refaire venir les spectateurs, et ça passe notamment par la promotion dans les salles avec la rencontre et les talents. Quand on a ces deux monstres sacrés du cinéma, quelle est la stratégie, l'idée derrière en se disant pas de tournée et pas d'avant-première?
Alors, quand on a Christian Clavier et Didier Bourdon dans un film, c'est clair qu'on peut se poser cette question-là. Il y a les médias nationaux qui sont là pour faire parler du film. On n'a pas fait tournée parce que les deux n'étaient pas à ce moment-là disponibles. On aurait pu faire une tournée avec le réalisateur, mais je pense que le public aurait souhaité vraiment rencontrer les deux comédiens à ce moment-là. Ça n'a pas été possible, ça ne s'est pas fait. L'avant-première, là aussi, c'est un choix que nous avons pris très vite parce que le film, on ne voulait pas dévoiler ce qui est l'histoire, c'est qu'est-ce qui se cache dans ces enveloppes, et c'est la raison pour laquelle on n'a pas fait d'avant-première. Et ça faisait, c'était vraiment un choix que l'on a fait avec les producteurs, avec le réalisateur, et puis ça a été plutôt payant.
Ce qui montre que finalement, même aujourd'hui, on peut pas tout montrer dans la bande-annonce et se dire qu'on va essayer de maintenir telle une cocotte minute l'excitation au niveau des spectateurs et lâcher le film et avoir des résultats très probants.
Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lors du congrès des exploitants d'il y a maintenant 16 mois...
Oui, on avait un long promo-reel.
On avait un promo-reel où on dévoilait.
Donc ça, c'était juste pour les exploitants, pour les
ouais,
rassurer.
Oui, mais même pas. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était plus efficace de laisser le spectateur ou les éventuels potentiels spectateurs dans l'incertitude et dans le questionnement. Et c'est probablement ce qui a ouvert la curiosité du public, puisque la bande-annonce était plutôt bien faite là-dessus, où on se demande qu'est-ce qui était inscrit sur ces enveloppes, et ça fonctionnait.
À ce titre-là, ça fait évidemment penser à la bande-annonce du prénom. Est-ce que c'est quelque chose qui est... ça peut être une inspiration, notamment cette promotion-là, ça l'a été ou
non,
c'est jamais
non,
venu
pas spécialement. Le but du jeu, c'était de se servir de cette idée. Comment réagit-on quand on apprend que l'on n'est pas exactement celui que l'on pensait être et que d'un seul coup tout est remis en cause de par sa famille, l'image qu'on rejette, qu'on donne aux autres. Et non, c'était vraiment volontaire, on ne sait pas du tout, on n'a pas cherché à calquer quoi que ce soit au niveau de la bande-annonce.
Arthur, je crois que tu avais une question.
Oui, j'avais une question. Joël, le film est sorti donc le 7 février, mercredi dernier, face à une autre comédie française, Opération Portugal, sortie par Sony. Et je voulais savoir si cette concurrence, ça vous a amené à une stratégie de sortie, un plan élaboré
Non, pas spécialement. Je sais qu'ils ont fait, eux, des avant-premières le dimanche d'avant. Nous, donc, pour la raison, je vous expliquais pourquoi nous n'en avions pas organisé. Après... des films français peuvent cohabiter en même temps. L'année dernière sont sortis, alors avec une semaine d'intervalle, Astérix et Alibi. Je me rappelle d'il y a quelques années, vous étiez peut-être pas tous nés là autour de cette table, mais ils sont sortis la même semaine Taxi et La Môme. Ça n'a pas empêché à ces deux films de faire des cartons. Donc on n'a pas vraiment opté ou modifié notre plan de sortie parce qu'Opération Portugal sortait face à nous, et même si c'est une suite.
Par contre, il y a eu plutôt dans l'année, voire à la fin 2023, il y a eu le succès de Chasse gardée, avec le même Didier Bourdon, qui est arrivé après finalement une longue période un peu compliquée pour la comédie française. Est-ce que ce succès-là, à l'orée de la sortie de Cocorico, vous a rassuré à ce moment-là?
Le succès de Chasse gardée?
Ouais.
Alors, il nous a rassuré parce que c'était une comédie, il nous a rassuré parce qu'il y avait Didier Bourdon dedans. Et comme dans Cocorico, il y a Didier Bourdon, c'était effectivement quelque chose d'enthousiasmant pour nous. Mais comme vous le savez, il est de plus en plus difficile de savoir, même la veille, malgré tous les paramètres que l'on peut recevoir à travers toutes les études que l'on a, nos distributeurs, eh bien, on était dans l'incertitude totale. Et moi, j'étais incapable de vous dire si ça allait faire 63 500 entrées le premier jour ou 40 000 ou 80 000. Donc, en l'occurrence, évidemment que le succès de Chasse gardée nous a satisfait dans la mesure où il y avait Didier Bourdon dedans. Et la comédie française est un thème essentiel, et c'est ce qui fait aussi qu'il y a beaucoup de succès en France, et que c'est ce qui fait grimper le box-office.
Oui, et puis finalement, le fait que deux films consécutifs de Didier Bourdon marchent dit aussi voilà une appétence du public sur ces films-là, sachant que c'est finalement assez rare que deux films qui avec les mêmes acteurs qui sont dans le même genre fonctionnent, parce que voilà on dit toujours qu'on est dans une industrie de stéréotypes, de prototypes pardon, et là finalement c'est un cas assez rare de deux comédies qui fonctionnent coup sur coup.
Alors je crois que si on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans le box-office depuis 4, 5, 6 mois, il y a eu très peu de comédies. Le dernier trimestre a été en termes de fréquentation, et même le deuxième semestre de l'année a été un peu décevant. Je sors Barbie et Oppenheimer, mais il n'y a pas eu de comédie française réellement. Tous les films qui sont sortis à l'automne et en décembre, j'en ai peut-être oublié quelques-uns, mais que ce soit le Dupontel, que ce soit le film Toledano Akash, Bernadette était tournée sous forme de comédie qui a fait un peu plus de 800 000 entrées.
Tout à fait.
C'est correct, mais il y a eu beaucoup de films un peu plus sombres, L'Abbé Pierre qu'on a sorti, donc il n'y avait pas vraiment de véritable comédie. C'est comme quand il manque un peu de films américains. D'un seul coup, le premier film américain qui ressort après 2, 3, 4 mois d'absence, et d'un seul coup, c'est En raz-de-marée. En l'occurrence, on est arrivé au bon moment, mais je pense qu'il y a d'autres films pour les vacances de février, des comédies qui marcheront également, j'espère.
Alors, on parlait de films américains, ça nous permet de faire la transition vers le box-office américain qui était animé ce week-end, évidemment par le Super Bowl, hein, qui a forcément une influence sur la fréquentation. Jérémy, Arthur, quels sont les enseignements à retenir de ce week-end américain et international ?
Alors, si on parle du box-office US, Tom, tu l'as bien rappelé, c'était le Super Bowl le week-end dernier. Donc, il faut savoir que ça impacte assez fort le marché, ouais, parce que c'est un événement, c'est l'équivalent de la Coupe du Monde de foot ici.
Oh oui,
ici,
tout,
la France étant
tout s'arrête aux États-Unis. D'ailleurs, il y a une anecdote drôle, les autres sports ne jouent pas en même temps que le Super Bowl. Par exemple, sur la NBA, par exemple, ils s'arrêtent en fin d'après-midi et toute la soirée est réservée au Super Bowl.
Voilà, donc sur ce week-end, on a Argyle qui arrive en tête avec 6,5 millions de dollars. Donc c'est une petite performance, il faut le savoir, parce qu'il faut remettre dans son contexte. À titre de comparaison, l'année dernière on avait sur la même semaine le troisième opus des Aventures de Magic Mike, film qui n'était pas sorti en France en salle, rappelons-le, qui était à la première place et qui était plus haut quand même, 8,3 millions de dollars. Donc Argyle cumule à date 60 millions de dollars. On peut dire que c'est une déception pour le film produit par Apple Studios, dont le budget s'est élevé aux dernières rumeurs à plus de 200 millions de dollars. Et la deuxième nouveauté de ce classement, c'est Lisa Frankenstein, distribuée par Focus Feature, qui atteint 3,8 millions de dollars sur ces trois jours. Donc en deuxième position. En troisième position...
A priori, pas de sortie française pour Lisa Frankenstein.
A priori, pas de sortie française non plus. Ouais. En troisième position, un film dont on a déjà parlé aussi, mais qui ne sortira pas également en France, c'est The Beekeeper.
Décidément, toujours là. Toujours là.
Produit par Amazon Studios, du coup.
Jason Statham en cultivateur, en apiculteur.
Tout à fait, oui.
On le redit chaque semaine, mais c'est important.
En quatrième position, on avait un événement, parce que ce n'est pas vraiment une exploitation normale de films. C'était des épisodes de séries qui étaient diffusés de manière événementielle, qui arrivaient en quatrième position, The Chosen, un événement de trois épisodes. Ouais. En cinquième, on retrouve avec 3 millions et un cumul de 205 millions de dollars Wonka, le succès qui ne s'arrête plus, parce que là, pour le coup, c'est vrai qu'il peut bien continuer sur les vacances d'hiver. En sixième position, on a Anyone But You, donc Tout Sauf Toi, qui lui, pour le coup... baisse un petit peu quand même. Il y avait une stratégie justement d'essayer d'attirer un public pour les soirées en amoureux de la Saint-Valentin, donc on verra si ça porte ses fruits cette semaine du coup, mais le film chute sur ce week-end quand même de 22%.
Ça y est, la trend de TikTok commence à s'essouffler sur Anyone But You, peut-être.
Perdre 22%, ça reste correct.
Ça reste correct quand même, oui.
Mais on va voir qu'en France, le film se tient encore mieux. Je reviens sur The Chosen, pour ceux qui ne nous auraient pas écouté la semaine dernière. C'est une série catholique qui est proposée en salle. Je crois que c'est la saison, je ne sais pas si tu as l'info, Arthur, c'est quelle saison qui est proposée là ?
Saison 4.
Saison 4, c'est les premiers épisodes de la saison 4. Donc voilà, c'est vraiment un phénomène très, très américain. Pour le coup. Jérémy, sur l'international, qu'est-ce qu'on doit retenir ?
Eh bien, écoute, ça coïncide avec le nouvel an chinois, puisque box office international, les quatre premières places sont trustées par des productions locales.
Boum.
Alors, boum, ouais, exactement. Et en première position, c'est un film du nom international de YOLO, YOLO peut-être pour You Only Live Once, qui démarre avec un score très très impressionnant de 110 millions de dollars de box-office. Alors le film, il est écrit, réalisé et a pour rôle principal une star locale qui s'appelle Chia Ling, j'espère que je le prononce bien, pardon, une femme qui donc pousse le film quand même à un niveau très 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 impressionnant. En deuxième position, c'est une franchise que tout le monde connaît bien évidemment, Pegasus 2, qui démarre avec 104 millions, donc là aussi un score quand même très très impressionnant, digne des plus gros blockbusters américains. En troisième position, c'est un film d'animation qui s'appelle Bonnie Bear's Time Twist, qui cumule 60 millions pour son premier week-end. Alors à titre de comparaison, Migration, qui est sorti il y a 4 semaines je crois aux États-Unis, cumule un peu plus de 100 millions. On voit quand même à quel point le marché chinois dépasse largement le marché américain quand il se met à tourner à plein régime. Et en quatrième position, Article 20, qui ouvre à 46 millions de dollars. Et derrière, on retrouve les films américains Argyle, Anyone But You, Wonka, Migration, etc.
C'est étonnant de voir qu'en même temps, le même week-end, aux États-Unis, c'est certainement le week-end le plus faible de l'année. Et en Chine, c'est un marché de malade.
Oui, parce qu'on part, en plus, on parle du box-office worldwide, mais ce sont des, à part Pegasus 2, ce sont des films qui sont sortis uniquement en Chine. Quoi. Donc ça c'est vraiment, vraiment intéressant à souligner. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce box-office international, si ce n'est que voilà, on sait très bien qu'en Chine, c'est quand même un week-end très très fort en fréquentation, hein, le week-end du Nouvel An.
Bah écoute, à part quelques petites retombées, notamment on a vu ce week-end un film dont malheureusement j'ai oublié le nom, mais un film à grand spectacle chinois qui était proposé dans quelques séances en France, notamment à Paris. Je sais que au HAL et au Max Linder, les séances étaient complètes. Alors je ne sais pas si Joël a le nom du film en question.
Effectivement, c'est dans le cadre des 500 séances autorisées.
Exactement, ouais, mais on continue à avoir des structures de distribution qui, notamment en France, quand même pays de la cinéphilie, essayent de faire éclore, de faire germer potentiellement des films à grand spectacle. Donc évidemment, c'est des petites structures, puisque c'est des structures qui doivent sortir moins de 10 films par an, donc ils vont avec des petits frais marketing. Mais quand on voit quand même, ça a pris du temps, mais de construire le succès de films japonais, notamment récemment Godzilla Minus One, peut-être que le futur de la diversification des contenus en salle passera par les films chinois. En tout cas, ça avance petit à petit, mais il y a quand même des signes encourageants.
Ouais, et de films indiens, parce qu'on sait qu'il y a des structures qui aujourd'hui se spécialisent en films indiens et avec lesquels ils font des très bons résultats. Arthur, on repart sur les États-Unis pour parler du Super Bowl, non pas du côté match ni du concert de la mi-temps, mais plus sur qu'est-ce qui a été montré en nouveauté cinéma. Il y a eu, je crois, comme chaque année, les rituels bandes annonces.
Absolument, tu l'as très bien dit, Tom. Qui dit Super Bowl dit nouvelles images des blockbusters les plus attendu de l'année. Donc cette année, c'est Universal qui a ouvert le bal avec la nouvelle bande-annonce du film Fall Guy qui sortira en France le 1er mai 2024. Donc le film est porté par Ryan Gosling et Emily Blunt. Après, on a pu découvrir la nouvelle bande-annonce du nouveau film de la saga La Planète des Singes. La Planète des Singes, le nouveau royaume qui sortira juste après le 8 mai.
Chez Disney,
oui.
Réalisé par Wes Ball,
le réalisateur de la trilogie Labyrinthe.
Exact.
On a pu découvrir aussi des nouvelles images du tant attendu film de Pixar Animation, la suite de Vice Versa, qui là, pour le coup, s'annonce assez grande en termes de fréquentation, parce qu'il faut se rappeler que le premier avait fait plus de 5 millions. Et le film sortira le 19 juin de cette année. Ensuite, petite particularité, parce que Warner aux US avait annoncé ne pas dévoiler de bande-annonce, mais du coup c'est bien Warner qui sortira ce film en France. C'est un film, une coproduction entre Universal et Warner, c'est la suite du film Twister, Chasseur de Tornades, qui sortira le 17 juillet. Les premières images ont été dévoilées hier et ça annonce un
qui s'appelle Twisters. Avec un S, qu'il y a deux tornades.
Comme dans Alien 2, quoi, en fait.
Exactement. On met un S à la fin. On rajoute un S et ça repartit.
Souvent le S de dollars, celui-là.
Très bien vu.
Et la plus grande bande-annonce, en tout cas la plus attendue par les fans, c'était celle du nouvel opus d'un personnage que je pense que vous connaissez bien, Joël. C'est le nouvel opus de la saga, de la trilogie Deadpool. Et il faut savoir, là, on pourrait presque croire que Marvel a voulu faire son propre Cocorico en rassemblant deux de ses personnages les plus connus, en tout cas de l'ère 20th Century Fox, parce que le troisième opus sera donc intitulé Deadpool et Wolverine.
En tout cas, les distributeurs ont sorti leur carte bleue, car quand on sait que 30 secondes coûtait 6,5 millions de dollars, Les budgets marketing ont explosé.
Là, il faisait quoi, 2 minutes celui-ci, je crois ?
2 minutes 30.
Et je me permets, Arthur, tu as oublié quand même un autre événement.
Mais je termine.
Pardon.
C'est l'ordre chronologique des sorties.
Mais il faut savoir, tout à fait, c'est quand même
Universal qui a aussi fermé le bal avec la première bande-annonce de l'adaptation de la comédie musicale Wicked Partie 1, qui sortira le 27 novembre ici en France.
Avec Ariana Grande.
Et toi, Arthur, qui passe un certain temps sur Twitter, qu'est-ce qui a fait le buzz un petit peu parmi ces bandes annonces ?
Bah, on peut pas cacher l'engouement qu'il y a eu autour des images de Deadpool, en tout cas autour de la communauté assez fan, qui avait un petit peu déserté justement la fameuse franchise Marvel avec les derniers films, mais qui là, je pense, va rehausser. La fréquentation de la marque.
Sachant qu'on ne voit que l'ombre des griffes de Wolverine et de ses cheveux, c'est dire.
C'est prometteur en tout cas. Un autre événement a fait le buzz cette semaine, Jérémy, déjà dans la profession, mais aussi auprès des spectateurs. C'est une évolution chez UGC, puisque UGC lance 7 cartes d'abonnement. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Mais oui, qui a dit qu'il n'y avait que le Super Bowl dans la vie ? Il y a aussi UGC. Eh oui, cocorico, j'ai envie de dire. UGC qui a convoqué la presse mercredi dernier lors du traditionnel 9h des Halles via son directeur des opérations Samuel Loiseau pour annoncer une nouvelle révolution. Il faut quand même le rappeler, UGC en 2000, nous étions nés, Joël. Eh oui, on était jeunes, mais on l'a vécu. Ils avaient lancé la première carte illimitée. C'était une vraie révolution. Ils ont été suivis par Pathé très peu de temps après. Mais ça faisait quelques temps que l'offre n'avait pas changé. Donc, on le rappelle, il y avait les cartes illimitées en solo ou en duo pour aller voir autant de films qu'on veut tous les jours de la semaine. Et là, UGC a sorti le grand jeu, puisque non seulement alors l'offre traditionnelle a quelque peu évolué, il y a eu un changement tarifaire, environ 2€ de plus sur l'offre solo et duo. Mais il y a une première petite révolution, c'est que les accompagnants de ces deux premières offres, maintenant, seront facturés uniquement 8€. Donc il y a une incitation pour encourager ses amis, sa famille à nous accompagner au cinéma et à venir découvrir des films, puisque la ligne directrice du GC, c'est toujours le spectre très large des films qu'on peut trouver là-bas. Et toujours dans cette volonté, je cite, de rendre le cinéma plus accessible que jamais, il y a plusieurs nouvelles offres. Alors si je ne dis pas de bêtises, il y a l'offre illimitée semaine, donc du lundi au vendredi inclus, pour 19,90€ par mois. La même offre, mais uniquement pour le week-end, toujours 19,90€, et ça, c'est du vendredi au dimanche inclus. Ces deux offres-là, comme les offres classiques, la personne qui accompagne le détenteur de la carte paiera 8€. Et ensuite, il y a trois nouvelles offres que je trouve très intéressantes. La première, c'est illimité plus un accès à Viva l'Opéra pour 35,90€, si je ne dis pas de bêtises, 34,90€, pardon. Viva l'Opéra, c'est le hors film phare du GC, donc c'est les retransmissions des plus grands opéras. C'est une offre qui est très très intéressante, notamment pour le segment senior qui va souvent voir ce type de contenu. Et enfin, les deux offres les plus intéressantes à mon sens, c'est d'abord l'offre famille. Pour 49,90€, le détenteur de la carte peut venir avec 3 personnes. Et l'offre, on va dire, qui va peut-être disrupter le marché. En tout cas, Samuel Loiseau l'a dit au micro de BFM TV, c'est une offre qu'ils n'ont jamais vue ailleurs dans le monde. C'est l'offre associée à Canal. C'est une offre pour les moins de 26 ans. C'est UGC moins de 26 ans plus Canal moins de 26 ans pour moins de 26€. Donc UGC montre clairement que le cinéma et le streaming, ce n'est absolument pas incompatible, et que un jeune qui regarde du streaming peut aussi aller au cinéma. En tout cas, c'est toute la réflexion, les études qu'ils ont menées, qui ont fait germer cette idée que les spectateurs, en tout cas de streaming et de cinéma, ils étaient complémentaires et l'un ne cannibalisait pas l'autre.
Alors Joël, les bonnes entrées de Cocorico sont pas forcément liées au lancement des nouvelles cartes, mais qu'est-ce que ça vous inspire vous en tant que distributeur?
C'est des stratégies commerciales. Moi, j'ai pas à m'immiscer dans les stratégies du GC. En tout cas, il y avait besoin, c'est clair. Ça faisait plus de 20 ans qu'ils n'avaient pas créé, renouvelé ou fait parler un peu d'eux, puisque les circuits en face ont innové avec la premiumisation, avec CGR qui crée son label. UGC n'avait pas fait vraiment beaucoup parler d'elle depuis de longues années. Le concept Cinécité est ancien. Les cartes illimitées, certes, ont été créées par UGC, mais il y avait besoin d'un mouvement de jeunesse, en tout cas. Et c'est, je pense que ça a été mis en place dès la semaine dernière. il y aura d'autres choses à venir peut-être.
Alors parlons un peu de SND si vous le voulez bien. Charlotte, je crois que tu voulais revenir sur un autre événement qui a eu lieu cette semaine pour SND.
Bah oui, effectivement, parce que vous avez pris la stratégie de ressortir aussi les deux films d'Alexandre Astier, à savoir Astérix et le secret de la potion et Astérix et le domaine des dieux. Je voulais un petit peu savoir voilà, comment s'était organisée cette stratégie, pourquoi la sortie maintenant, comment ça a été réfléchi, etc.
Alors, c'est très simple. On s'est rendu compte, comme tous les distributeurs, que sur les vacances... Alors, moi, j'ai sorti pendant de très longues années des films d'animation de chez Disney, DreamWorks, que vous connaissez bien, Blue Sky, et puis d'autres, Pixar, par exemple. Et donc, traditionnellement, sur chaque période de vacances scolaires, il y a des gros titres qui y arrivent. Et pour la première fois... en février 2024, il n'y avait pas de gros titres. Tout ça, sans faire offense aux films qui étaient déjà à l'affiche, mais il n'y avait pas une grosse locomotive. Donc on s'est dit qu'il y avait un peu de la place, il y avait de la place pour ressortir des films d'animation de qualité. C'est ce qu'on a fait. On a investi beaucoup dans le digital, essentiellement d'ailleurs. On a retiré les affiches et les exploitants ont plutôt joué le jeu. On n'a pas été du tout... pour une fois, très exigeant sur les séances, donc il y avait une vraie liberté d'exploiter ces films qui ont plutôt bien marché, puisque les deux réunis font 7 millions d'entrées, ils ont une très bonne image au sein du public, ça s'est bien vendu derrière, ça, les diffusions télé se passent toujours très bien, donc malgré tout, bah, on a fait, je crois, 28 000 entrées, je pense, en quelques jours, alors que les vacances n'ont pas encore vraiment démarré. Elle démarre aujourd'hui véritablement, donc on est très satisfaits et tout le monde a joué le jeu et voilà, donc on a voulu vraiment un peu combler parce qu'il y a d'autres films pour les familles mais il n'y avait pas vraiment de gros dessins animés.
Bah oui, effectivement, c'est à voir comment ça va se dérouler pendant les vacances, mais c'est vrai que le Astérix, le secret de la potion a fait 16 000 entrées au week-end et le domaine des dieux a fait environ 12 000 entrées. Donc, voilà.
On est très satisfaits.
J'avais une autre question, donc en parlant un petit peu de chiffres, c'est vrai que l'année 2023 a été très bonne aussi pour SND. Elle s'est achevée avec le succès notamment de La 13, dont on a énormément entendu parler.
Et La 13 qui, à ce jour, si on regarde les 12 mois déroulants, enfin les 12 mois qui glissent, je pense que La 13 est 7e ou 6e ou 8e film français hein, en termes de résultats. Donc effectivement, on est très très content.
Impressionnant au niveau de la tenue.
Hein. Ouais. Vraiment.
Exactement, et en plus il y avait des super retours, donc c'est vrai que ça permet au film de se maintenir bien dans le temps. Et alors vous, c'est quoi vos prochains grands rendez-vous pour 2024 prévus?
Alors, puisqu'on est on parlait d'Astérix, on a mais tous les distributeurs s'y mettent aussi, et puis peut-être aussi parce que la fréquentation était un petit peu en baisse et les exploitants veulent absolument ressortir des pépites. On a ressorti la trilogie Twilight qui est en train d'être diffusé selon les circuits à telle ou telle période. On a ressorti La La Land. Alors évidemment, il y a tout sauf toi qui est en concurrence le 14 février avec La Land. Mais je sais que Pathé a fait plus de 18 000 entrées sur une seule soirée sur toute la France vendredi. Ce soir, lundi...
En film 15 ans, c'est quand même... C'est...
Oui, et puis qui diffusait le film. On fait 30 à 35 000 entrées par an sur La La Land. Évidemment, essentiellement avec le process des scolaires, mais le film il est diffusé régulièrement et ça continue. Et ce soir, je sais que chez UGC, le film il est dans toutes les salles. Il y avait 5000 réservations, c'est aussi considérable. Et puis toutes les autres circuits s'y mettent également. On ressortira Iron Man au mois de mars. Et dans les prochains rendez-vous, alors d'abord, on a un rendez-vous d'un film qui est sorti en Angleterre au début du mois de janvier avec le retour de l'oscarisé Anthony Hopkins qui revient avec un film très émouvant quand on va sortir un peu à la stratégie de comme La Tresse, parce que c'est un film dont le bouche-à-oreille sera excellent, qui va vraiment remuer, secouer tous les spectateurs qui vont le voir. C'est une histoire vraie, mais totalement vraie. Je ne vais pas la raconter ici, mais c'est vraiment incroyable et Anthony Hopkins est juste.
En tout cas, Anthony Hopkins, qui a vraiment beaucoup ému les spectateurs avec le film de Florence Zeller et l'actualité et le succès du film La Zone d'intérêt, peuvent peut-être en tout cas converger vers un succès potentiel. Mais c'est vrai que je me souviens très bien quand le trailer avait été montré au congrès, on sentait un silence, un moment suspendu où d'un coup, c'est presque si on n'entendait pas les larmes qui allaient sortir des yeux des exploitants, tellement là, il y avait ce moment très palpable où d'un coup toute la salle s'est retenue.
Ouais, c'est vrai. On y croit beaucoup. Ça sort dans le 21 février. Le rendez-vous suivant, c'est le film, le nouveau film, le 19e d'Anne Fontaine, Boléro.
Et non pas le 20e.
C'est une private joke très professionnelle. Et donc, le 19e film d'Anne Fontaine avec une pléiade d'acteurs français plutôt de qualité, Emmanuel DeVos, Jeanne Balibar, Raphaël Persona, Doria Tillier, etc., Vincent Pérez. Ça, c'est le 6 mars. Donc, on va sortir avec le soutien des salles ARSC. Et puis, voilà, ça, c'est, le premier semestre sera un petit peu plus calme, mais on a surtout beaucoup de rendez-vous au deuxième semestre. On a un film tiré d'un jeu vidéo, a priori très connu, un peu moins pour moi, ça s'appelle Borderlands. C'est une grosse production de Lionsgate que l'on a. J'ai pu voir le film il y a quelques mois, et le film est visuellement très réussi. On sortira également des comédies françaises, donc il y en faut, oui. Super Papa avec Ahmed Silla, Le Larbin avec Cadmerade notamment. Et puis on a un film auquel moi je tiens beaucoup, qui sortira sur le deuxième semestre. C'est réalisé avec Kate Winslet et Marion Cotillard. C'est un biopic sur la vie de ce personnage juste incroyable qui a une vie d'une richesse absolue, qui s'appelle Lee Miller, qui fut photographe, qui fut mannequin, qui fut égérie des grands couturiers, qui fut donc photographe de guerre et qui a été vraiment une icône. C'est une New-Yorkaise née au début du XXe siècle, qui est morte à la fin du dernier siècle. Et c'est un biopic qu'on n'a pas encore vu, qui sortira certainement au deuxième semestre. Et ça, c'est un vrai grand rendez-vous. On a le nouveau film d'Anne Leny, également avec... une grosse distribution, voilà. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses encore.
Voilà, un programme très riche pour SND sur les mois à venir. Le programme est riche aussi actuellement avec un coup de dé qui est en salle encore pour SND. Et évidemment, Cocorico qui trust cette semaine le haut du classement, c'est le moment de se lancer sur le Box Office France.
C'est hyper beau le cinéma.
On va attendre les chiffres impatiemment.
C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas.
Et accrochez-vous.
Et oui, je le disais, un marché qui repart à la hausse. Ça y est, on atteint enfin les 2 millions d'entrées au week-end. Ça fait longtemps qu'on l'attendait. C'est pas arrivé depuis la première semaine de janvier, tout simplement, qui était le dernier week-end des vacances de Noël. En tout cas, ce marché-là, il est largement porté par les nouveautés de la semaine, puisque c'est 3 nouveautés qui sont en tête cette semaine. À commencer, donc, je le disais, par Cocorico, 488 000 entrées au week-end, c'est forcément déjà le meilleur démarrage de l'année 2024, devant la zone d'intérêt et ses 198 000 entrées. Qu'est-ce qu'on peut en dire de plus, Jérémy, là-dessus ?
C'est juste le meilleur résultat, de toute façon, d'un film sorti en 2024.
Ouais,
c'est
exactement.
Pas juste le meilleur démarrage, c'est déjà numéro 1.
C'est ça.
Ça a dépassé, en 5 jours, Pauvres Créatures.
Pauvres Créatures, ouais. C'est vrai, je l'avais pas souligné. En effet, c'est déjà en 5 jours le meilleur score de l'année 2024. En deuxième position, c'est un autre film français sorti, lui, par Studio Canal, qui ouvre avec 182 000 entrées à l'issue de son premier week-end. Il s'agit du Dernier Jaguar de Gilles Demestre. C'est un démarrage qui est intéressant parce qu'il est exactement identique à celui de son précédent film, à savoir le Loup et le Lion en 2021, également sous la bannière Studio Canal. 182 000 entrées également pour un film qui avait terminé à plus d'un million d'entrées. Là, le film sort à un moment propice, hein, juste avant les vacances scolaires qui viennent tout juste de démarrer. Donc une longue carrière l'attend maintenant pour le Dernier Jaguar, pardon.
1 million d'entrées à la fin, normalement, si tout va bien, Gilles Lemestre, un félin. Voilà, le public est au rendez-vous.
Voilà,
une formule qui marche pour Studio Canal.
Ça marche très bien. Ça marchait très bien aussi avant, il y a encore peu de temps, en 2018, puisque Mia et le Lion, lui, avaient réalisé 1 500 000 entrées fin de carrière. On lui souhaite le même succès, mais ça, pour ça, il va falloir compter sur la tenue. Charlotte, tu voulais parler du film numéro 3 de la semaine, et tu vas le mentionner, s'il te plaît, avec tous les A de son titre.
Attention, je me suis cassé les dents.
Ah, non, si.
À toi.
Oui, effectivement, c'était évidemment Dali. Aïe, et je me prends le micro. C'était Dali, effectivement, qui est sorti, donc la sortie de Diafana. Et on attendait avec impatience la prochaine sortie de Quentin Dupieux, hein, qui avait surperformé avec Yannick, avait fait son meilleur résultat all time, à savoir plus de 460 000 entrées en fin de carrière. Et Dali surpasse ça, puisqu'il arrive avec 173 000 entrées. Il ouvre comme ça, alors que Yannick avait ouvert avec 105 000 entrées. Donc, c'est le meilleur premier week-end pour un film de Quentin Dupieux. Est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'on est dans l'âge d'or ou pas de Quentin Dupieux? Telle est la question qu'on se pose tous.
Non, c'est quand même très fort qu'il fasse ce score-là, alors que le sujet est quand même un peu moins évident que Yannick. Là où Yannick avait une promesse d'assister à quelque chose d'un petit peu déluré, mais où on avait quand même, j'ai envie de dire, un semblant d'histoire. Là, on se dit, c'est un portrait d'un peintre surréaliste raconté par plusieurs personnes. On voit Édouard Baer ou Jonathan Cohen avec une fausse moustache en train de parler comme Salvador Dali. Ça montre quand même que Dupieux est en train de devenir un réalisateur de premier plan et que des spectateurs maintenant se déplacent vraiment pour lui, non pas que pour le pitch de départ.
Il y a eu ça aussi, mais c'est vrai que le casting aussi est très fort. Donc forcément, je pense que ça ramène aussi forcément des entrées en plus.
En tout cas, Cocorico, il y a trois films français en tête.
C'est ça, exactement. Exactement. Ouais. C'est quand même l'un des enseignements à retenir de cette semaine, Jérémy.
Samuel Loiseau en parlait notamment quand il rappelait les chiffres par rapport à sa carte. Quand même, 40% de part de marché pour les productions locales. Voilà, on ne le dira jamais assez. On est un pays d'exception culturelle reconnu dans le monde entier parce que les films américains marchent chez nous, les films de cinématographie du monde entier marchent chez nous. Voilà, on rappelle quand même l'importance du Festival de Cannes, le tremplin qu'il est pour des films de tout horizon. Et en même temps, un cinéma populaire, un cinéma de thriller, un cinéma de genre aussi, qui arrive petit à petit et qui, selon les années, aussi entre 35 et 40% de part de marché. C'est très important et c'est un très très bon signal, en tout cas, pour notre marché. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les gros blockbusters et on est reparti comme en 2019. Allez, on va y croire.
On y croit en tout cas, ces films font partie des films qui réalisent plus de 100 000 entrées, largement plus de 100 000 entrées au week-end. Ils sont 6 ce week-end à arriver à passer ce cap. En quatrième position, La Zone d'intérêt y arrive pour sa deuxième semaine consécutive. 130 000 entrées au total sur ces 5 jours, c'est ce qui lui permet d'avoir un cumul désormais proche des 400 000 entrées, 369 000 entrées au total pour le film de Bakfim.
Et bravo,
un maintien qui est remarquable, hein, moins 28%. Le film se maintient très bien en salle. Il y a un petit renfort de salle.
Sans copie, je crois, en plus.
Ouais, un plus ou moins sans copie. Ouais. En tout cas, ça aide aussi à maintenir le film à un certain niveau.
Bah, il faut de toute façon, puisque quand on voit les films art et essai ou aussi radicaux qui passent par la case Cannes, on voit souvent dans les comparables qu'il y a un plafond de verre autour des 500 000 entrées. Et là, c'est vrai que c'est la bonne stratégie de la part de Bakfim de se dire, voilà, deuxième semaine, il faut surtout pas perdre la dynamique. Les salles sont demandeuses, il faut élargir de manière raisonnable. Moi, je pense qu'ils ont très bien fait.
Et profiter du bouche à oreille qui s'installe auprès des spectateurs.
Qui est excellent sur ce film, ouais, faut le rappeler.
Autre film au-dessus des 100 000 entrées, alors là c'est un peu moins encourageant, c'est Argyle, hein, qu'on attendait quand même plus haut, hein. 320 000 entrées à l'issue de son deuxième week-end, avec une perte quand même significative de 42% sur ce week-end-ci. Il cumule sur les 5 jours qui viennent de s'achever 101 000 entrées, pardon. Voilà. C'est quand même un film, Jérémy, qu'on attendait plus autour de 500-600 000 entrées minimum, non?
Ah bah complètement, et puis surtout quand on regarde son coefficient Paris-Provence, on n'est pas sur un gros coefficient, on n'est pas à 4, 4,5, 5, non, on est à 3,6, qui montre que le film est quand même assez cantonné aux grandes villes.
Mais donc, Kingsman avait les mêmes soucis, hein,
ouais.
Le coefficient n'était pas très très élevé. Et
il avait fait peut-être un plus gros démarrage.
Oui, ouais.
Donc ça montre quand même que c'est des films qui ont des durées de vie quand même finalement assez courtes et qu'on va chercher plus de 50% des entrées dans les 10 premiers jours.
Ouais, et donc c'est pas forcément encourageant pour la suite de la carrière d'Argyle qui devrait au mieux atteindre les 500 000 entrées. Autre démarrage à aller chercher en 6e position, s'il y avait match entre les deux comédies de la semaine, elle est perdue pour Opération Portugal de La Vie de Château. En tout cas, on va mettre évidemment des pincettes puisque c'est un film qui est quand même très calibré pour les vacances scolaires. Il n'en reste pas moins que c'est un démarrage un peu moins bon que le précédent épisode, qui lui était sorti dans une période un peu particulière post-Covid. Le premier épisode avait ouvert à 221 000 entrées. Il avait terminé à 450 000 entrées, mais il avait eu un rebond de 42% en deuxième week-end, qui était, je crois, lié aussi aux jauges de spectateurs à l'époque. J'ai du mal à imaginer un plus 45% en deuxième semaine pour Opération Portugal, qui, je le rappelle, donc, ouvre lui à 106 000 entrées sur ses 5 premiers jours.
Bah, surtout quand on en parlera tout à l'heure, ce qui va à les propositions en termes de comédie, donc de films potentiellement concurrents qui vont arriver dès la semaine prochaine, on va être face vraiment à ce qu'on appelle voilà, le mur de programmation et surtout la petite et moyenne exploitation donc, qui ont 3, 4, 5 écrans. Quand on a un Cocorico qui marche très bien, un Chasse gardée, on veut encore le laisser sur quelques séances le week-end, les nouveaux films qui arrivent sur la semaine du 14, comment on fait? Et Argaël, Opération Portugal, c'est là où vraiment les distributeurs vont s'arracher les cheveux.
Avant ce mur de programmation, Charlotte, il y a un film en continuation qui continue à tirer son épingle du jeu.
Oui, effectivement, il continue et on se pose vraiment la question de ce que ça va être mercredi, puisque c'est la Saint-Valentin qui arrive. Donc, est-ce que Sony aura eu raison de rajouter un petit bonus avant le générique de fin ou pas? De Tout Sauf Toi, donc la trend TikTok continue puisque c'est la plus petite chute de la semaine avec moins 8% pour un cumul de 316 000 entrées. C'est très bien pour Sony, ça continue tranquillement. Donc voilà, et puis ensuite Tom, tu voulais peut-être parler d'autre chose avant que je parle de Dune
directement. Non, bah on va quand même s'arrêter à la 8ème position parce qu'on a notre invité qui est quand même le directeur des ventes d'SND, donc on mentionne tout de même la présente un coup de dé en 8ème position qui cumule 421 000 entrées, une chute en 3ème semaine qui est quand même importante, hein, moins 42%, Joël, une réaction sur les chiffres d'un coup de dé?
Alors sur la chute, là je pense que l'arrivée de Cocorico lui a fait un peu de mal, c'est un public assez adulte, donc automatiquement ça a impacté les résultats. Au niveau des résultats, c'est exactement ce qu'on souhaitait faire pour être complètement honnête. On était calibré pour être entre 400 et 450 000 entrées, on va finir tout près de 500 et je pense qu'on les atteindra.
Oui, je pense que les 500 000 entrées sont clairement jouables sur le film.
Le film surperforme le week-end.
Ouais. Et ça c'est bien parce que les week-ends sont en plus très forts en ce moment, donc il en profite évidemment. Charlotte, en 9ème position, une ressortie.
Effectivement, une ressortie, la ressortie de Warner. 3 semaines avant la sortie de Dune partie 2, voici la ressortie de Dune partie 1. Donc en termes de ressortie, par exemple, il y avait eu Titanic qui était ressorti en 2023, qui avait cumulé environ 149 000 entrées à l'issue de son premier week-end. C'est vrai que ici, Dune cumule donc 60 000 entrées, mais il vient quand même se placer en 9ème position. Et il faut savoir qu'il y avait quand même assez peu de séances, peu de copies, donc c'est très très bien. Et puis c'est 50% quand même au-dessus de la ressortie des Trois Mousquetaires qui avait eu lieu en 2023 aussi, juste avant, 3 semaines aussi, à peu près, je crois, avant la sortie des Trois Mousquetaires, Milady. Donc c'est très bien pour Warner, à voir ce que ça va donner sur Dune 2. Mais en tout cas, on sent un engouement qui arrive pour cette belle sortie de février.
On termine ce top 10 avec l'ancien leader 2024, il était jusqu'à mercredi, le leader en termes de box-office c'était Pauvre Créature chez Disney, il cumule désormais 464 000 entrées, le film de Yorgos Lanthimos c'est tout de même une très belle performance, il perd en plus que 27% sur son quatrième week-end, pardon, avec un plan de sortie quand même assez élargi, on est désormais sur 653 copies, Jérémy on le place où maintenant Pauvre Créature sur une fin de carrière?
Bon, allez, 500.
Ouais, c'est raisonnable.
Un petit peu plus. Bon, en tout cas, c'est quand même très, 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 très beau pour le cinéma radical de Yorgos Lanthimos.
En tout cas, on peut noter en 11e position que la sortie de Cocorico n'a pas complètement tué la carrière de Chasse gardée, qui perd que 41% de ses entrées et cumule désormais un chiffre ahurissant de 1 830 000 entrées. Voilà, la belle performance du GC continue sur sa 8e semaine. Qu'est-ce que vous voulez signaler d'autre dans ce top, Jérémy?
Les autres démarrages rapidement qui sont malheureusement pas dans le top 10, mais Le Royaume de Kensuke, le film d'animation du Pacte qui aidé de ses 20 000 avant-premières cumule 59 000 entrées. Une petite déception, c'est le nouveau film de Bertrand Bonello avec Léa Seydoux, La Bête, qui démarre en 20e position avec 32 000 d'entrée. En 23e position, une autre déception pour Metropolitan, c'est Race for Glory, Audi vs Lancia, qui démarre avec un petit 26 000 entrées. Les reprises d'Astérix, on en a parlé. Puis deux derniers démarrages, Green Border, le nouveau film de Condor Distribution, qui ouvre à la 34e place avec 14 000 entrées. Et enfin, en 44e position, même si c'est un hors film, comme on dit, c'est Pororo, l'île au trésor, distribué par CGR Events.
Et à noter tout de même que la tenue positive d'une semaine à l'autre est faite par le film distribué par Jour de Fête, La Ferme Bertrand, qui
gagne 1%.
Qui gagne 1%, ouais. Et contribue du coup à l'actualité.
Et Race for Glory, je reviens dessus deux minutes. Voilà, on pouvait potentiellement s'attendre, là, même si c'est pas le même réalisateur aux commandes, on pouvait s'attendre tout de même à peut-être une carrière à la rush, parce qu'en plus il y avait le point commun de Daniel Brühl dans les deux films. Et là, Rush, lui, a ouvert en 2013 à 121 000 entrées. Là, Race for Glory avec 27 000 entrées. Malheureusement, on est très loin du compte. À noter aussi quelques bonnes performances côté ARC. En plus de La Ferme des Bertrands, on peut signaler Le Dernier des Juifs chez Ad Vitam, qui lui continue à perdre très peu, hein, d'une semaine sur l'autre. On était, je crois, autour de moins 21 en deuxième semaine, moins 19 sur ce troisième week-end. Voilà, c'est ce qu'on appelle un sleeper ARC, hein, c'est-à-dire un film vraiment qui se fait sur la durée. 140 000 entrées au total pour le film d'Ad Vitam. Il peut aller chercher les 180 000 entrées sans trop de soucis. Je voulais également mettre en lumière May December, qui est aussi sur son troisième week-end, le film de Todd Haynes qui était présenté à Cannes, qui lui atteint désormais 220 000 entrées.
Émigration qui tient encore.
Émigration qui tient encore et qui va en plus remonter avec le début des vacances scolaires et va lui permettre d'atteindre tranquillement son 1,5 million.
Ouais. Bravo. Une bonne nouvelle pour, en tout cas pour une nouvelle potentielle franchise.
Écoutez, si on a fait le tour... Jérémy, tu voulais rajouter quelque chose ?
Moi, j'avais quand même une question à poser à Joël. Quel est votre regard aujourd'hui, notamment, vous parliez tout à l'heure des séances, de l'importance des séances. Aujourd'hui, comment essayer de pousser justement un film avec les engagements de programmation, les recommandations de la médiatrice, notamment sur les avant-premières? Est-ce que la manière justement de négocier les sorties nationales et les continuations a changé? Est-ce que c'est plus difficile qu'avant? Comment on essaye de s'armer face justement à un environnement beaucoup plus compliqué qu'avant, parce qu'on a moins de comparables et en même temps on a toujours autant de films qui sortent?
Alors, il y a plusieurs sujets là. Il y a d'abord le sujet des avant-premières. Une recommandation est tombée le 12 janvier dernier. Ce week-end, il y avait encore plus de 700 avant-premières de maisons de retraite. Disons que ces avant-premières avaient été annoncées avant la recommandation. Donc j'espère que ça va apaiser le marché. Nous, on a pris déjà le parti pris chez SND de lever le pied sur les avant-premières. Il n'y en aura donc a priori plus le dimanche, sauf quand il s'agit d'un film pour les familles, pour les enfants. Donc ça, c'est un sujet, mais Cocorico n'a pas fait d'avant-première, on n'a pas fait d'avant-première sur Un coup de dé, il va faire 500 000 entrées, on n'a pas fait d'avant-première sur Jeff Panaclock, il va faire 650 000 entrées, donc les avant-premières, c'est très bien, mais si c'est pour faire la veille, ça ne sert plus trop à grand-chose. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Concernant les engagements de programmation, alors, le jour où tout le monde les respectera, je ne sais pas trop où ça en est. Je sais que certains circuits, ils font très attention. D'autres, peut-être un petit peu moins. Il faut faire avec. Et aujourd'hui, les négociations, elles se font au jour le jour. Et il n'y a pas vraiment de stratégie qui a été mise en place depuis que ces engagements sont arrivés. Après, on regarde un petit peu ce qui se passe chez les autres, mais... moi, tant que mon film est traité comme je le souhaite, c'est l'essentiel. Voilà.
On parlait de maisons de retraite. Charlotte, est-ce qu'il fait partie des films sélectionnés pour le sondage Twitter de cette semaine ?
Absolument, on a une semaine très très intéressante avec à la fois du Kev Adams, la bande à Fifi, Marvel, mais également un gros 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 biopic. Donc dans le sondage, nous avons ces quatre films, à savoir Bob Marley One Love, la sortie de Paramount, Maison de retraite 2, la sortie donc de Apollo, Chien et chat, la sortie de Gaumont et enfin Madame Web, la sortie de Sony. Arrive en tête bien bien largement Bob Marley, hein, One Love, qui fait 50% tout pile.
Wow.
Exactement, ouais, c'est, on sent l'engouement, on sent l'envie. C'est vrai qu'on voit pas mal de com aussi autour de ce film, donc je pense que Paramount en attend également beaucoup. Ouais. En dessous, on a Madame Web, donc la sortie de Sony, qui se trouve avec 26% d'envie. Ensuite, nous avons Chien et chat avec 14%. Et enfin, Maison de retraite 2 avec 10%. Mais c'est vrai que la cible de nos followers débriefing n'est pas la même cible, je pense, que Maison de retraite 2.
Ça, c'est la vraie question.
Forcément, on va bien voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que les avant-premières de Maison de retraite 2 sont très, très bien. Donc, à voir ce que ça va donner.
Mais ce ne seront pas les seuls films à l'affiche de la semaine du 14 février. On le rappelle, c'est les vacances scolaires dans deux zones. Alors, ça va continuer sur la zone C. Et puis, ça va démarrer sur la zone A. Donc, en plus de Maison de retraite 2 chez Apollo, en plus de Chien et chat chez Gaumont, en plus de Bob Marley chez Paramount et en plus de Madame Web chez Sony, on aura également des séances exceptionnelles d'alerte rouge chez Disney. Le film a bénéficié d'un visa exceptionnel qui permet 500 séances pour ce film qui, on le rappelle, était sorti uniquement sur la plateforme Disney+. On a également sur un volet plus ARS chez Memento le Molière imaginaire d'Olivier Pie. Chez Disney, de la RSC également, c'est un drame anglais sans jamais nous connaître. Chez Pyramide, on a Vivant d'Alix Delaporte. Chez Jour de fête, 20 000 espèces d'abeilles, c'est un drame espagnol précisément. En animation pour les tout-petits, chez GBK, on a Rose, petite fée des fleurs. Et enfin, on peut noter également les sorties chez Shellac d'un documentaire Chienne de Rouge, chez Outplay, un drame turc qui s'appelle Nuit Noire en Anatolie. Et enfin, on termine avec un film sorti, un documentaire sorti par Festi Cinéma Distribution qui s'appelle Pensez à demain. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission. Merci beaucoup Joël Pourgaton pour votre venue au micro et pour avoir parlé du film qui fait évidemment l'actualité cette semaine, à savoir Cocorico. Je vous invite une nouvelle fois à écouter nos podcasts satellites, celui animé par Charlotte, mais également le tout nouvel épisode de Un Café avec Dédé posté cette semaine qui parlait, je crois, de...
36 Quai des Orfèvres.
36 Quai des Orfèvres. Merci beaucoup. Merci à vous. La semaine prochaine, vous retrouvez Aurélien à ce micro. Et moi, je vous souhaite une bonne semaine et à très vite sur Débriefing.